Radio Kapi.
Le journal de Philippe Moussaou Kondé.
Trois morts, dont deux miliciens et un soldat FRDC, c'est le bilan des affrontements hier entre l'armée et des assaillants dans la localité de Logo en chefferie des Bahema Nord, en territoire de Djougou. Bilan dressé par le porte-parole des FRDC en Ituri. Suspension prolongée des activités de l'Assemblée provinciale dans le Bazouélé. Le président de cette institution s'en inquiète à l'approche de la rentrée parlementaire le 30 mars prochain. Campagne depuis lundi sur la prévention et la lutte contre les conflits intercommunautaires dans le Haut-Katanga. L'initiative est de l'organisation internationale Freedom House. Et c'est le dossier à suivre dans la seconde partie de cette édition. Bonjour à tous. Commençons en Ituri. De nouveaux combats ont été signalés mardi entre des soldats FRDC et des assaillants dans la localité de Logo et sa périphérie, à environ 80 km à l'est de Bounia, en chefferie de Bahema Nord, dans les territoires de Djougou. Selon le porte-parole des FRDC en Ituri, les forces loyalistes ont lancé une offensive pour reconquérir des zones qui étaient occupées par ces hommes armés. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, dont 2 miliciens et un soldat des FRDC. Le lieutenant Jules Gongo est joué au téléphone par Jean-Claude Lucky.
Hey, Logo, c'est autour du lac Albert. Nous sommes allés reconquérir en fait quelques villages qui étaient proches de ces incidiques après avoir eu des combats le mois dernier avec la force navale. Et nous avons lancé les offensives de l'autre côté pour libérer, pacifier totalement tout au long du lac. Il y a eu échange de tirs, donc deux militaires ont été neutralisés et les mains FRDC tombées sur le champ d'honneur. Donc il y a des échanges de tirs, les balles ne choisissent pas. Il est tombé dans le champ d'honneur pendant qu'il y avait ces opérations. On les poursuivait, il y a eu un accrochage, et voilà, le professionnalisme a joué, des militants ont été neutralisés.
Toujours en Ituri, les députés nationaux, toutes tendances confondues, appellent à une conjugaison des efforts pour mettre fin aux violences dans les territoires de Djougou. Ils l'ont dit mardi au cours d'un point de presse à Bounia, après une journée d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette entité. Ces élus saluent l'engagement du gouvernement central d'avoir délégué le vice-premier ministre de l'Intérieur pour s'enquérir de la situation. Cependant, ils sèchent leur participation au plénière de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que la sécurité soit rétablie à Djougou. Martial Kizan fait le point.
Les députés ne sont pas allés par quatre chemins. Pour eux, la situation de Djougou est un drame humanitaire caractérisé par des tueries, destruction des infrastructures et déplacement des populations. Ils encouragent la population de l'Ituri à rester unie pour barrer la route à toute personne qui veut créer la division entre les ethnies pour faire croire à un conflit identitaire. L'honorable John Tibassima.
Les filles et fils de l'Ituri ne sont pas un seul instant tombés dans le piège de la haine interpersonnelle, encore moins interethnique, raccourci que d'aucuns auraient souhaité les voir emprunter, afin de les diviser, de les opposer les uns aux autres, comme dans un passé récent.
Ces députés renouvellent leur confiance aux forces de l'ordre qui sont massivement déployées en Djougou pour combattre les assaillants. Ils encouragent les vice-premiers ministres de l'Intérieur qui séjournent à Bounia à multiplier les efforts pour éradiquer ces massacres. John Tibassima.
Nous tenons à exprimer notre gratitude, notre soutien et notre encouragement à nos vaillants policiers et éléments de FRDC dans la lourde responsabilité qui leur incombe, à savoir la restauration de la paix et la sécurisation en territoire de Djougou.
Entre-temps, ces parlementaires s'interdisent d'être à l'ouverture de la session ordinaire de mars pour exiger le rétablissement de la paix en Djougou. Bounia, Martial Kizadiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, violents affrontements entre FRDC et présumés ADF, mardi après-midi à une dizaine de kilomètres nord-est de la ville de Beni, sur l'axe routier Beni-Kassindi. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, deux assaillants et trois civils ont été tués au cours de cette attaque de rebelles repoussés par les FRDC. Le capitaine Mac Azuka annonce que la route Beni-Kassindi est déjà réouverte à la circulation et les corps de ces deux présumés ADF sont exposés par l'armée depuis ce matin devant la mairie de Beni. On écoute le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord au micro de Martial Papimukeba.
L'ennemi que nous sommes en train de traquer en profondeur cherche à traverser la route pour se diriger vers le sud. Et c'est lors de cette manœuvre que nos militaires qui étaient en patrouille l'ont croisé. Et après l'échange de tirs, nous avons réussi à neutraliser deux, dont une femme. Malheureusement, l'ennemi avait déjà atteint la route du côté du pont Semoliki et il a tué des paisibles citoyens. Trois civils ont été tués. Nous avons déjà ouvert la route, béni que signifie. Le trafic a repris. Le renfort qui a été dépêché par le général Mbangou Machita Marcel a réussi à traiter correctement l'ennemi. Et le fruit, c'est le deux corps que nous avons amenés ce matin à la mairie. Ces bandits ont tué encore des innocents. Et les militaires ont tenu à venger des innocents. Et il fallait exceptionnellement extraire ce corps-là et les exposer à la mairie pour que les gens voient les gens qui sont en train d'insécuriser Béni et ses environs.
Nord Kivu encore, la situation sécuritaire reste inquiétante dans la chefferie de Bachou, en territoire de Béni. La société civile continue à réclamer le remplacement des militaires du régiment déployés dans cette chefferie, les accusant de plusieurs faits, dont meurtre des civils et incapacité à lutter contre l'insécurité qui règne dans la région. Moïse Kipoutoulou, premier vice-président de la société civile de Bachou, explique. Il a été joint au téléphone par Christian Mapendano.
La situation sécuritaire à la chefferie de Bachou est toujours précaire. Suite à l'assassinat qui semblait être observé ces derniers temps, il y a un certain monsieur héritier, habitant de Kitara, qui a été assassiné par un groupe d'hommes non autrement identifiés. J'ai dit passé, il y avait eu un cas d'assassinat de certain monsieur Mango Cosmas. Il a été abattu par un militaire de la deuxième classe, appartenant à l'unité de 2100, deuxième régiment qui est basé à Boulambo. On est en train d'alerter les autorités quant à ça. Des enquêtes se poursuivent, mais sans résultat. Et si tout qui sont orchestrés par des éléments effarités du 2100, deuxième régiment, nous avions recommandé au gouvernement de relever d'actes sanitaires des régiments afin que la population puisse continuer à vaquer librement à leur activité, que le gouvernement puisse nous amener. L'unité qui peut être capable de collaborer avec la population afin que la population puisse s'impliquer comme il le faut sans avoir peur.
Notons qu'après d'un mois, la cour militaire garnison de Boutembo-Béni avait condamné à mort un militaire pour le meurtre d'un civil dans cette chefferie de Bachou. Fermeture du camp de transit des ex-combattants rwandais, chef de l'air à Kanyabayonga, dans le sud du territoire de Lubero. Le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole Lambert Mende, parle de décisions non négociables. Mais ces ex-combattants FDLR exigent d'abord la tenue d'un dialogue inter-rwandais avant leur retour volontaire. Jeudi dernier, une délégation du gouvernement congolais était à Kanyabayonga pour les informer de la fermeture de ces camps gérés par la MONUSCO. Le point avec Gisèle Cage.
Un dialogue inter-rwandais, c'est ce qu'exigent les 372 ex-combattants FDLR et leurs dépendants, hébergés depuis 3 ans dans le camp de transit des Kanyabayonga avant leur retour au Rwanda. Mais pour le gouvernement congolais, rien de tel n'avait été promis. La RDC ne servira pas d'arrière-base de revendication contre un autre pays. Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu.
Nulle part, il n'avait été convenu qu'il y aurait un dialogue inter-rwandais qui serait à la base de cette démobilisation. À ces ex-combattants rwandais, c'est d'abord de rentrer chez eux au Rwanda et à l'intérieur créer une dynamique de dialogue. Mais penser que dans la région des Grands Lacs, il y a un pays qui va servir de base arrière, de revendication pour faire un front contre notre pays, ces époques sont largement dépassées. Nous sommes déterminés à faire la paix entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, pour que désormais nous parlions un langage de développement et non un langage de guerre.
La décision du gouvernement congolais n'est pas négociable, a dit Lambert Mende. Et si ces ex-combattants insistent sur leur volonté de ne pas retourner au Rwanda sans dialogue préalable, le gouvernement prendra ses dispositions, selon Julien Paloukou. Quant à la MONUSCO, elle dit que son dispositif d'accompagnement de ces ex-combattants pour un retour volontaire chez eux est toujours disponible. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Et puis une soixantaine d'acteurs venus du Nord et du Sud Kivu, de l'Ituri et de Kinshasa évaluent depuis hier mardi à Goma l'acte d'engagement qui a sanctionné la conférence sur la paix et le développement d'il y a 10 ans à Goma. Ces forums de la société civile du Nord Kivu en partenariat avec l'initiative pour un leadership cohésif se veut un cadre d'évaluation du chemin à parcourir jusque-là. Quel est l'impact de ces forums quand on sait que le gouvernement et les groupes groupes armés signataires de cet acte d'engagement n'y prennent pas part. Bernard Nyangui.
L'acte d'engagement signé le 23 janvier 2008 annonçait la cessation immédiate des hostilités, particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il était signé par les délégués du gouvernement, ceux des groupes armés, de la société civile et des représentants de la communauté internationale, entre autres. Au vu de l'évolution de la situation 10 ans après, Maître Omar Kavota, membre de la société civile et un des participants, reste sceptique quant à l'impact de ce forum.
Lorsque cet acte d'engagement a été signé, il se comptait une trentaine de groupes armés à province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais à ce jour, l'espace de fluence de ces groupes armés s'est étendu. Ici, nous sommes en train d'évaluer, en l'absence des acteurs majeurs, il y a risque qu'on n'évolue pas.
Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, lui, reste ouvert. Il souligne que ce forum est une approche à essayer. Pacifique et Keta ou part.
Ce n'est pas qu'on soit à côté des groupes armés pour qu'on trouve une solution, mais nous devons utiliser les personnes influentes et qui peuvent jouer un rôle important par rapport à l'approche que nous allons prendre au cours de ces assises.
Les organisateurs espèrent produire à l'issue de ce forum qui va durer 4 jours un plan d'action succinct sur la sensibilisation pour la paix dans les 4 provinces de l'Est de la RDC. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent à Kalemie, dans la province du Tanganyika, pour parler de la visite de travail effectuée hier mardi par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Mark Lowcock. Objectif, évaluer les besoins humanitaires des personnes déplacées internes vivant dans la région. Cette visite s'est soldée par la signature d'un protocole d'accord entre les humanitaires et le gouvernement provincial. François Xavier Mibé.
Les deux parties s'engagent à œuvrer pour une solution durable aux problèmes que rencontrent les personnes déplacées internes dans la région. Parmi les problèmes évoqués se retrouvent ceux liés à la sécurité dans les milieux d'origine, à la santé et à l'éducation des enfants. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Richango Kitangala.
Nous espérons également qu'il va, cet accord, contribuer de manière significative à renforcer la coordination et l'harmonie dans la réalisation des actions humanitaires ou de développement que nous sommes appelés à poser en faveur des personnes affectées.
Cette signature intervient après la visite successive du sous-secrétaire général aux affaires humanitaires avec toute sa délégation dans 2 camps de déplacés internes de Katanika et celui de Kalunga. C'est environ 9000 ménages de Katanika et 13000 autres de Kalunga qui expriment des besoins d'assistance. La coordonnatrice humanitaire est signataire du protocole d'accord, Kim Bolduc.
Je vous remercie aussi de donner autant d'importance au développement. Là, nous partageons une conviction commune. Nous ne pouvons pas avoir l'action humanitaire sans nous préoccuper du développement. C'est le futur de la province, c'est le futur du pays.
Kalemi, François Xavier Mibé, Radio Kapi.
Je l'ai dit en titre, le président de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé s'inquiète de la suspension prolongée des activités de l'organe délibérant par le ministère de l'Intérieur. Cette institution est fermée depuis 2 semaines au motif de préserver l'ordre public. Selon Michel Guillot, président de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé, la police qui est déployée au sein de cette institution ne leur permet pas de travailler alors qu'il faut déjà préparer la rentrée parlementaire prévue le 30 mars prochain. Au téléphone de Jacques Moukonkolé, qui déplore cet état des choses.
Aucun service au sein de l'organe délibérant ne fonctionne pour le moment. Tout est bloqué. Même nous n'avons même pas accès à mettre pied là-bas. Si vous voulez accéder là-bas, on vous tend donc les canons. Et si vous arrivez ici, on va vous tirer sur vous. Voilà des intimidations. D'ici le 30 mars, nous devons donc maintenant convoquer la session donc ordinaire de mars qui va aller jusqu'au mois de juin. Maintenant, nous ne nous organisons même pas. Et les services administratifs minimum que nous avons ne fonctionnent pas. Tout est une institution de l'État. Mais c'est quelle démocratie que nous avons dans ce pays? C'est quelle démocratie? Est-ce que la démocratie dit que donc si l'organe délibérant joue son rôle, qu'on ferme et qu'on fait ceci? Non, ce n'est pas ça.
Monsieur le Président, si la police a été déployée, c'est pour restaurer l'ordre public.
Nous déclarons qu'il y a des services spécialisés en matière. La police est là, la NER est là, DGM est là. Si nous avions trouvé l'ordre public, ils doivent témoigner. Je prends donc les services spécialisés en témoin.
Direction Kananga, 3 cas de vol à main armée ont été enregistrés la nuit dernière. 2 ont eu lieu dans la commune de Kananga et le 3e a été signalé à Lukonga. Dans les 3 cas, des témoins accusent des personnes habillées en tenue militaire et portant des armes. Le maire de la ville affirme que les autorités multiplient les initiatives pour mettre fin à l'insécurité dans sa juridiction. D'autres détails avec Joël Bouffingo.
Le premier incident a eu lieu vers 20h au centre-ville de Kananga. Des témoins rapportent qu'un groupe de personnes habillées en uniforme de l'armée et armées de fusils a attaqué un homme qui réalise des opérations de transfert d'argent par téléphone. La personne a été blessée par balle. Elle est actuellement soignée dans un hôpital de la ville. Suivez son témoignage.
On a tiré 4 balles. Il y a 2 balles qui m'ont percé dans ma cuisse droite et les autres sont passés à côté. Ils étaient 8 à 7 comme ça. Il a récupéré les sacs que j'avais avec l'argent à l'intérieur avec mes téléphones.
Dans la même commune de Kananga, un autre vol a été perpétré au quartier Chisambi. Une douzaine de personnes habillées également en tenue militaire se sont introduites dans une maison où elles ont emporté tous les biens dans une moto avant de repartir à pied. Au cours de la même nuit, au quartier Mulunda, dans la commune de Lukonga, des hommes armés sont entrés dans 2 maisons et ont emporté tous les objets de valeur. Le maire de Kananga que nous avons interrogé affirme que les autorités prennent des mesures pour mieux sécuriser la ville, citant notamment l'augmentation des policiers qui font des patrouilles. Mais il invite les habitants à dénoncer les potentiels bandits qui sont dans leur voisinage. Il y a quelques jours, les prêtres catholiques de la ville de Kananga ont adressé un mémorandum au gouverneur pour dénoncer l'insécurité qui prévaut dans cette ville. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
On va prendre l'actualité internationale en Angola. Une nouvelle nomination fait couler beaucoup d'encre. Le général Fernando Garcia Miala a été désigné par le président João Lourenço, nouveau chef de service des renseignements. Celui-ci, à l'époque, chef de service des renseignements extérieurs, avait été condamné à 4 ans de prison en 2008 pour insubordination envers le chef de l'État. Le général Miala avait été accusé d'avoir comploté pour assassiner le président José Eduardo dos Santos lors d'une cérémonie militaire en 2016.